Dans la langue française, il y a des gros mots qui sont aussi pour les chrétiens. Alors quand je dis gros mots, c'est des mots qui ont de l'ampleur, qui sont grands plutôt. Voilà. L'esprit de corps, qu'avons-nous part en Jésus ? Avant de commencer, je vais prier. Merci Seigneur, parce que c'est ensemble que nous nous présentons devant toi. C'est toi qui es venu vers nous. Nous ne te connaissions pas et nous ne pouvions pas te connaître, mais tu t'es fait connaître à nous. Oui, notre Dieu, notre Père, tu as été manifesté par Jésus, ton Fils. Et nous avons ces textes et ces paroles, mais nous avons aussi en nous cette flamme que tu as placée, ton esprit, ton amour. Amen. L'esprit de corps, qu'avons-nous part en Jésus ? Nous entendons parler de, donc voilà les gros mots, purification, justification, sanctification, et cela fait partie de notre édification. Mais une dernière chose qui n'est pas moindre, c'est la glorification. Hein, vous voyez, ça c'est un mot on parle moins souvent. Et cela fait partie de la vie, de la marche et du combat de la foi de l'Église et de chacun en Christ et avec Christ, dans les temps présents, pour les temps à venir, avec la notion d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, glorifier Dieu et être glorifié en Dieu avec Jésus par l'Esprit qui nous accompagne. En Jésus, à quoi avons-nous part ? Quel bon côté et moins bon côté ? Marcher, courir vers le but, la vocation céleste, contempler de loin la gloire de Dieu, entrer dans sa gloire, célébrer Dieu, adorer Dieu, déjà le faire dans la foi et l'espérance d'être un jour avec Dieu, de faire corps, être et vivre dans son repos céleste. Alors je dirais mauvais côté le terrestre. Je dirais c'est aussi prendre part aux souffrances de Christ, aux souffrances du peuple de Dieu, faire corps, faire face, faire front, s'unir dans la prière, dirons-nous sacerdotale en Jésus, qui est dans Jean 17, et nous en avons lu au tout début de ce culte une partie. Servir, agir, souffrir, encore un peu de temps. L'apôtre Paul l'avait bien compris en écrivant dans la lettre aux Romains, en parlant de gloire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il ajoute dans Romains 8, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous qui croyons. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Dans 2 Corinthiens 4, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Quand Paul dit « légères afflictions », n'oublions pas l'apôtre qui reconnaît un peu plus loin, dans cette même lettre au chapitre 11. Écoutez bien, « légères afflictions ». Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, et j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Oui, Paul fait peu de cas de ces choses, et il appelle ça légères afflictions. Quelle bonne part, meilleure part, être avec Christ. Il savait que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur soit avec vous. Christ n'est pas ici, il est ici si nous nous unissons en lui, dans un même esprit, une même foi, un même amour, au-delà de ce temps présent qui est passager. Au Colossiens 1, nous lisons « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il est écrit aussi que Dieu habite une lumière inaccessible. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous voyez comme ces paroles sont importantes et grandes et mystérieuses aussi à la fois pour nous qui ne voyons pas, avons du mal à voir de l'autre côté, de l'autre bord, là où le roi, où Jésus est monté. Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et 1 Jean 3 nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et le monde ne nous connaît pas. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais ne sommes-nous pas tous, et c'est vrai, défaillants, bien faibles en toutes ces choses, humiliés sans cesse, ramenés à la terre, cette terre où toutes ces choses sont terribles et éprouvées, nous éprouvent. Et c'est pourquoi nous prions. En vérité, nous sommes ici-bas éprouvés de toute manière. Et dans notre temps, les souffrances ne nous sont pas épargnées. Certes, le coronavirus, le confinement, le couvre-feu qui restreignent nos vies nous imposent toutes sortes de contraintes. Mais c'est aussi toutes les autres maladies, les cancers, les morts soudaines, comme nous avons pu apprendre de plusieurs cette semaine et avec qui nous partageons la peine. Entendre aussi parler aux infos de toutes sortes d'accidents, encore de conflits, de violences, de manifestations, de guerres, de famines, mais encore entendre parler de guérisons puis de rechutes, combien d'épreuves dans nos familles, parmi nous. Comment résister à tout cela, persévérer dans la foi sans le secours de l'Esprit, le Consolateur, et le secours des frères et sœurs de l'Église, la communion fraternelle, l'union du corps de Christ. C'est pourquoi nous aspirons à des choses meilleures et nous les recevons par la parole de Dieu et les récits de la vie de Jésus et l'esprit de foi. Si j'ai un livre, sinon deux, à vous conseiller pour lecture cet été, c'est de reprendre l'évangile de Jean de façon détaillée, de façon posée, afin que vous puissiez contempler les gloires de Dieu et y prendre part. Goûtez combien le Seigneur est bon. Et le second, c'est l'épître de Paul aux Romains, qui développe ces choses. Avoir part à des choses, quelle meilleure part? Nous allons lire un passage de l'évangile de Jean au chapitre 12. qui fait suite à la résurrection de Lazare au chapitre précédent. Alors, quelle meilleure part Marie de Béthanie a choisi, si ce n'est d'écouter Jésus et croire ce qu'il dit, qu'il annonce, ce qu'il va faire, ce qu'il accomplit, être une chose, se considérer comme un rien, une vie animale, terrestre, éphémère, de passage sur la terre, où demain ne nous appartient pas. Ainsi n'en est-il pas de la vie de l'homme, vanité ? Pourtant, la promesse demeure d'une autre vie, d'une vie éternelle, dans une marche victorieuse, glorieuse. Mais il nous faut aussi la foi pour y aller. Quel autre choix de vie, quelle personne nous y conduit ? Une personne comme Jésus et toutes ses annonces et ce qu'il accomplit ? Avoir part à des choses, partager une vie, un lieu de vie, une fin de vie, une mort et une résurrection de vie, une vraie et entière guérison, une rédemption, une restauration, un corps nouveau. Partager l'histoire de Jésus, sa fin de vie, un repas 6 jours avant la Pâque. Jésus savait vers quoi il allait. Un autre chapitre, le 13, il est marqué « Avant la Pâque ». Avant la Pâque. Et ces deux chapitres reprennent un repas. Un repas. Et une action. Et les pieds. Les pieds. Il est question de pieds, d'humilité, d'amour. Dans ces deux chapitres. D'un côté, les pieds de Jésus, nous allons le lire, et d'autre côté, les pieds des disciples. Excusez-moi parce que j'ai quelques soucis de vision. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Je ne prendrai pas le chapitre 13, mais vous le connaissez. Jésus mit le comble à son amour en s'abaissant et en lavant les pieds de ses disciples. Voilà. Le Maître, le Seigneur, celui qui est venu des cieux, s'abaisse devant ses disciples. Si je reviens sur le chapitre précédent, c'est une femme. Alors, quel enseignement Jésus donne après un geste pratiqué par Marie de Béthanie, un repas. Marthe sert à table, Jésus et Lazare, qu'il a ressuscité, se soucier du Maître et Seigneur, celui qui délivre de la mort, ne rien dire, agir, avoir de la reconnaissance, oindre les pieds de Jésus, c'est ce que fera Marie de Béthanie. Marie aime Jésus et donne répand sur ses pieds son parfum, ce qu'elle a de plus cher. Et elle l'essuie avec ses cheveux. Vous savez ce que sont précieux les cheveux d'une femme. Judas est là aussi pour se soucier des pauvres en apparence. Quelle intention cachée, dissimulée, connue de Jésus. Prendre l'argent de la vente d'un parfum, il volait dans la bourse commune aux disciples. Jésus parle de sa mort, sa sépulture, avertit Judas, le met en garde sur la cupidité. Dans ce passage, nous voyons aussi que Jésus est connu, attire les foules, mais ils veulent aussi voir Lazare, qui est la curiosité, plus que celui qui l'a ressuscité, peut-être. Quel effet du miracle ! Avoir de la reconnaissance, rendre honneur à celui qui a délivré de la mort, croire, écouter ce qu'il dit, ou venir voir Lazare comme un héros, sorti, délivré de la mort. Qui voulons-nous voir ? Qui êtes-vous venu voir au désert, dira Jean-Baptiste. Des miracles ou Jésus ? Qui sommes-nous venus voir ? Nous cherchons des miracles ? Oui. N'éteignons pas l'esprit. Dieu est capable de tout. Dieu est surprenant. Mais allons au-delà. Pour les Juifs, les sacrificateurs, à l'approche de la Pâque juive, qui est Jésus ? Un trouble-fête ? Un semeur de troubles ? Il sème le trouble entre les sacrificateurs et le peuple au point de vouloir le faire mourir. C'est vrai que beaucoup de Juifs se allaient vers Jésus et non plus vers les sacrificateurs. Quel mal a-t-il fait ? Ému de compassion, il a parlé. A dit Lazare, sors. Et Lazare est sorti de la mort. Il sera dit plus tard, en Jean 15, ils m'ont haï sans cause. Ceux qui étaient là jeudi peuvent encore se souvenir de Juifs pour Jésus. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans raison. Comme cela était aussi écrit dans le psaume 69, 4. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Dérobé, volé, peut-être voler un titre, celui de Dieu. Parce que, voilà, s'il était question du Seigneur, du Maître, de Dieu. Prendre le nom de Dieu ou être établi Seigneur et Maître, par Dieu le Père, si telle est la volonté de Dieu. Dans Philippiens 2, Paul nous éclaire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Personne n'est venu pour sauver le peuple incapable de respecter la loi de Dieu transmise par Moïse. Il est venu pour accomplir la loi, jusqu'en supporter le jugement. Nous sommes rendus participants. C'est là la glorification, si nous acceptons de reconnaître Jésus pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Bien d'autres ont vécu, ont contemplé la croix. Plusieurs ont vu là l'œuvre parfaite de Dieu, au travers aussi la résurrection. Dieu fait grâce, Dieu étend sa grâce à tous les hommes, la promesse de la vie éternelle. Nous sommes rendus participants, rendus purs, justes sur la terre, en recevant le pardon de nos péchés, qui est le don de la vie et du sang de Jésus. Et nous manifestons la volonté de Dieu en aimant les autres et en nous pardonnant aussi nos offenses. C'est une vie avec du sens. Aimer Dieu, aimer les autres, comme Jésus l'a fait dans la foi. D'autres ont contemplé et ont fait aussi ce chant. Que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges et chanter les gloires de ta croix. Ainsi sont tous ceux qui, par la parole annoncée, ont cru, et la parole annoncée a touché le cœur d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adolescents. Et leur vie en a été changée, transformée. Bientôt, nous aurons part à la vie éternelle dans la paix de Dieu, là où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Cela est dit, cela est écrit. Croyons. Encore un peu de temps. Résistons. Tenons ferme. Chacun passe. Nous passons dans ce siècle. Nous avons démarré pour beaucoup dans le siècle précédent. Certains n'ont démarré que dans ce siècle. Mais tous, nous passons. Mais nous avons en vue des choses meilleures. Jésus ne parle pas de son propre chef. Dans Jean 12, 49, voici ce qu'il déclare. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Recevons bien ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies, dans la communion fraternelle des frères et sœurs, avec aussi ce commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, qui ne fait que reprendre ce qui était déjà écrit, ce que Dieu voulait pour nous tous, la vie éternelle. Et nous sommes chargés aujourd'hui, peuple de Dieu, là où nous sommes, Dieu nous a placés dans nos maisons, l'un ici, l'autre là-bas, et l'autre dans un emploi aussi, dans un autre, là où nous sommes. Eh bien, nous sommes chargés de pouvoir dire, Jésus t'aime, Dieu t'aime, Dieu veut pour toi la vie éternelle. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et c'est pourquoi nous aspirons tous, nous aspirons. Et nos chants s'élèvent, nos prières s'élèvent. Nous soupirons aussi dans la nuit, là où Dieu nous a placés, quand nous nous retrouvons seuls. C'est dur, mes frères et sœurs. Je le sais. Et c'est encore bien plus dur aussi pour ceux qui reçoivent aussi le journal de Portes Ouvertes, comme j'ai pu encore recevoir ce lundi. Et j'ai apprécié cette parole. Qui est voilà, les nouvelles, voilà, en haut. Nouvelles du front. Quelque part, il y a un front ici, mais il y a un front aussi, et c'est ce front qui est aujourd'hui en Égypte, en Afrique du Nord, et en Inde aussi, où on essaye d'écarter Dieu, de repousser Dieu, de repousser Jésus. Eh bien, nous devons prier aussi, être auprès de ces frères et sœurs qui sont là-bas à proclamer que Jésus est vivant et qui se font battre de coups, qui sont emprisonnés. Eh bien, c'est un seul corps. Nous devons vraiment être unis aussi dans la prière avec tous ceux qui souffrent, que ce soit ici, que ce soit là-bas, à notre côté du monde. C'est dur. Beaucoup le savent. Beaucoup sont venus aussi, on fuit parfois la guerre. Mais ils sont encore dans leur cœur des familles là-bas et souhaitent les voir aussi passer dans un autre bord, déjà présentement sur la terre. Déjà sur la terre, quand on est persécuté dans un pays, on a envie de fuir. Eh bien, il y en a d'autres qui disent non, je ne vais pas fuir, je vais encore apporter, je vais résister. Alors, nous avons des résistances aussi à faire ici. Voilà. Que Dieu nous aide et nous emploie. La mission est grande. Amen.